Marianne Allier, bonjour. Vous
Bonjour.
êtes responsable de la gestion taux euro chez Amundi. On va parler avec vous donc de ces marchés. Pour commencer, peut-être un petit mot de cette année de 2015 sur les taux. Qu'est-ce qu'on peut en dire cette année?
Elle a été assez étonnante. C'est une année où on a beaucoup parlé, encore une fois, des banques centrales et de l'action des banques centrales. Et finalement, quand on se retourne et qu'on regarde ce qui s'est passé, et bien dans la zone où la banque centrale augmente ses taux et arrête, enfin, limite son QI, c'est-à-dire les États-Unis, on a des taux qui n'ont pratiquement pas évolué sur le 10 ans. On est 10 BP au-dessus, en dessous du début d'année. Et on a exactement la même image du côté de la zone euro, où là, la banque centrale un QI extrêmement important et baisse ses taux. Et donc finalement sur les taux longs, l'action des banques centrales dont on fait tout un plat, dont beaucoup de gens parlent, n'a pas eu tant d'impact de ça sur les marchés. En revanche, on a eu beaucoup plus sur les parties courtes de courbe, où là on a vu le 2 ans américain monter d'environ 30 centimes, alors que le 2 ans européen, lui, si on parle des emprunts d'État allemands, baissait fortement en négatif. Donc un bilan un peu mitigé sur finalement, on s'est focalisé sur des banques centrales qui, au final, n'ont peut-être pas eu autant d'impact qu'on veut bien leur donner.
Oui, c'est pas le moindre des paradoxes, qu'on le dit depuis des mois, voire des années, en disant que ce sont les banques centrales qui mènent effectivement cette politique monétaire, et donc derrière les marchés, par ce biais-là, finalement, elles n'arrivent pas à influer autant qu'on pouvait l'imaginer, peut-être.
Exactement, elles sont alors pas forcément impuissantes du côté économie réelle, puisqu'on a bien vu que dans la zone euro, quand même, les actions de la BCE ont limité ce qu'on appelait la fragmentation du marché. Donc, on fait en sorte que les taux de tous les pays de la zone euro se rapprochent, que les entreprises se financent à des taux qui devenaient à peu près comparables dans toute la zone euro. Donc, de ce côté-là, sur l'économie réelle, on va dire que la Banque centrale a eu un peu d'emprise. Et de façon assez étonnante, c'est sur les marchés financiers où on n'a pas revu ce qu'on aurait pu imaginer. Je vous rappelle le début d'année où tout le monde disait qu'il faut aller investir plutôt sur des titres corporate, il faut investir beaucoup sur les taux d'intérêt allemands parce que les actions de la BCE vont assécher le marché. Et bien finalement, ce n'étaient pas les bons chevaux à prendre.
Est-ce que, je dirais, 2016, de ce point de vue-là, la donne peut changer et de quelle manière?
Alors, la donne peut probablement changer, non pas qu'on va moins s'intéresser aux banques centrales, je pense que ça va toujours être au cœur des discussions des économistes et des stratégistes. En revanche, on a une variable là qu'on maîtrise beaucoup moins, qui est le prix du pétrole, et qui probablement sera la variable qui va décider de la continuation d'une Fed plutôt durcissant sa politique monétaire, ou d'une Fed qui s'arrête et d'une BCE qui est encore plus accommodante. On a un pétrole qu'on a du mal à maîtriser et à voir où il va aller. Or, son impact sur les taux d'inflation, qui sont le seul objectif de la Banque centrale européenne, c'est sa target d'inflation, qui est au cœur de ce que la Fed essaye de faire, de ses banques centrales, de ce que fait la Banque du Japon, d'essayer de remettre de l'inflation dans le système, parce qu'on sait que la déflation est mortifère pour l'économie. Et ça, malheureusement, c'est la variable qui inquiète tout le monde, c'est la variable du pétrole. Et c'est elle qui va donner la croissance mondiale, probablement, l'inflation et donc ce que les marchés financiers, et en particulier les marchés de taux, vont pouvoir faire l'année prochaine.
Alors, il y avait eu au mois d'août dernier, c'était plutôt la Chine qui inquiétait. Est-ce qu'aujourd'hui, on est passé à autre chose? On s'est habitué à une croissance un peu moindre sans avoir peur d'un ralentissement brutal chinois?
Alors, bien sûr, on peut revoir la Chine revenir au devant de la scène. On le voit bien parce qu'elle a encore des questions sur sa devise. Donc, oui, ça aussi, ça fait partie des problèmes. Mais on voit bien que la Chine, finalement, le pétrole n'est qu'une des conséquences de ce qui va se passer en Chine aussi, et que tout ça est lié, et que quand on parle de croissance mondiale, on voit bien que si le pétrole, en fait, baisse trop, ça remet en cause la croissance d'un certain nombre de pays émergents, et par ricochet, ça va toucher la croissance chinoise. Et c'est toutes ces interactions qu'aujourd'hui les marchés de taux ont du mal à juger si est-ce que c'est bien ou mauvais pour le marché. D'où une certaine stabilité en fait des taux à 10 ans.
Oui, on pourrait dire avec un prix du pétrole aussi bas, on devrait avoir une croissance économique, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, beaucoup plus forte. C'est pas le cas. Est-ce que c'est lié à ces montagnes de dettes accumulées?
Pas uniquement, les États-Unis maintenant sont probablement, sans être passés tout à fait du côté pays producteur, sont probablement moins sensibles à une baisse du prix du pétrole en termes de positif pour leur croissance. Il ne faut pas oublier que les États-Unis sont maintenant producteurs nets de pétrole, donc ils sont moins bénéficiaires d'une baisse des matières premières. Et puis la croissance mondiale est quand même tirée maintenant à moitié par les pays émergents, on va dire, et à moitié par les pays développés. Et dans ces pays émergents, il y a 70% des pays qui sont négativement impactés par une baisse des prix du pétrole. Et donc c'est ces effets-là, on voit bien que si l'Arabie Saoudite, les pays producteurs de mondial, les gros fonds souverains sont obligés à la fois pour continuer à assurer leur croissance ou pour défendre leur monnaie à vendre des devises fortes, tout ça a en fait de l'impact sur les marchés développés qui ne sont pas aussi évidemment positifs que ça.
Alors, au cours des derniers mois, on voyait bien les banques centrales finalement inciter les investisseurs à prendre des actifs plus risqués. Est-ce que le changement du côté de la Fed va amener un changement des choix des investisseurs ?
Tout va probablement dépendre du discours de la Fed et de sa volonté de continuer ce chemin de hausse des taux ou sa volonté juste de monter pour éviter des bulles sans vouloir pour autant tuer une croissance qui, on n'est pas en surchauffe non plus aux États-Unis. Je pense que c'est toujours la volonté des banques centrales de préférer que finalement l'investissement aille à de l'investissement productif plutôt qu'à de l'investissement purement financier. Et du côté des investisseurs, encore une fois, le principal problème qu'on voit, c'est que si on imagine que le pétrole va être un des éléments forts de l'année prochaine, le fait qu'il soit aussi volatile va probablement entraîner de la volatilité sur les marchés et probablement du coup faire augmenter ce qu'on a vu cette année, les primes de risque sur les actifs risqués. Maintenant, il y a un prix d'équilibre, il y a un moment où entre un taux peu volatile sans risque et puis un taux risqué même un peu plus volatile, vous trouvez un niveau d'équilibre.
On a vu quelques risques peut-être surgir du côté du high yield, hein, ces obligations à haut rendement aux États-Unis. Pour l'allocation d'actifs 2016, comment elle peut évoluer pour vous ?
Je pense qu'elle va probablement évoluer, encore une fois ce que je disais, c'est-à-dire que les actifs risqués, on va probablement demander un peu plus de rendement l'année prochaine que cette année. On a déjà vu une augmentation des spreads. Vous disiez le marché high yield US, il a des problèmes, c'est vrai. Pour l'instant, c'est quand même confiné, non pas au high yield traditionnel, mais à des fonds qui avaient beaucoup de ce qu'on appelle de distress security, c'est-à-dire des obligations qui étaient quand même proches du défaut. Donc c'est quand même cantonné pour l'instant à un nombre de fonds faibles. Et puis après, on va attendre probablement que les gens prennent conscience quand ils vont découvrir les performances de 2015, se réinterroger sur l'allocation 2016. À ces niveaux de taux, je pense qu'il va y avoir quand même de l'appétit toujours pour des classes d'actifs un peu risquées, pour des classes d'actifs non cotées, que ce soit de l'immobilier, que ce soit de l'infrastructure, que ce soit de la dette privée, tout ça, on risque d'avoir un passage toujours plus grand vers ces actifs-là.
Merci Marianne Ali.
Merci à vous.
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 Marianne Ali.
Merci à vous.